Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Avec Belinda Bosuma.
L'examen d'État édition 2024 en RDC appartient désormais au passé. Le taux de réussite est largement satisfaisant malgré l'insécurité dans certaines provinces, assure l'inspecteur général de l'EPST. À Bukavu, cependant, la fin de ces épreuves hier a poussé certains élèves à déchirer les uniformes, notamment des jeunes filles et en plein air. Évasion fiscale en RDC. La coalition Le Congo n'est pas à vendre recommande au gouvernement de doter la Cour des comptes des moyens nécessaires pour mener à bien son action contre ce fléau. La coalition invite le ministre de la Justice de se saisir du dossier afin de sanctionner les présumés mafieux. Et puis, prévenir l'enrichissement illicite dans la gestion de la chose publique. Des travaux se tiennent dans ce sens depuis hier jusqu'à ce vendredi à Kinshasa. Pour en parler, nous recevons Michel-Victor Lessaye, coordonnateur intérimaire de l'Agence de prévention et lutte contre la corruption. Sachez tout d'abord que la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO a une nouvelle équipe. Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, devient le président en remplacement de Monseigneur Marcel Utembi, archevêque de Kisangani. Monseigneur Étienne Ungeoun, évêque du diocèse de Bondo, devient premier vice-président, tandis que Monseigneur Jean-Bertin Dayone, évêque du diocèse de Lolo, est deuxième vice-président. Et sachez qu'une délégation des évêques de la CENCO a été reçue hier à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État. Cette délégation est allée justement présenter au président Tshisekedi le nouveau dirigeant de la CENCO et échanger avec lui sur la situation globale du pays. Madame, Messieurs, bonjour. Examen d'État édition 2024. Le taux de réussite du déroulement des épreuves s'élève à plus de 95%, ce malgré la situation d'insécurité que traverse le pays dans certaines provinces. C'est en substance ce que déclare l'inspecteur général de l'EPST. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette réussite? Jacques Odiamusungai parle des efforts fournis par le gouvernement, les partenaires provinciaux, les élèves finalistes et les parents. Même dans les zones en conflit, on a laissé les choses s'est déroulé normalement parce qu'on a compris que l'examen d'État engage la République et c'est l'avenir de nos enfants, ajoute-t-il. L'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique était l'invité du magazine Dialogue entre Congolais hier, animé par Donna Madimba. Suivez son extrait proposé par Pele Kipela Mundo.
Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. C'est une réussite. Plus de 95%. Nous avons le rapport intérimaire. C'est que tout a bien marché. Mais nous n'oublions pas que quelques petits problèmes dans des zones à conflit. Par exemple, le dernier jour, il y a eu un centre où les élèves ont dû quitter précipitamment parce que il y avait de bruit de bottes. La journée a été gâchée pour plus ou moins 300 hein, du côté de Massissi. Mais pour le reste, ça s'est bien passé. Mais également dans le même coin. Le premier jour, il y a eu le même bruit de bottes, mais ça s'est atténué et les élèves ont dû reprendre leur place au sein des salles d'examen.
Comment vous avez réussi à organiser ces examens alors qu'on sait que le pays, dans 3 ou 4 provinces, vit dans une grande insécurité où parfois les populations se sont déplacées?
Eh bien, les efforts de tout le monde, les efforts du gouvernement, les efforts de tous les autres acteurs provinciaux, faut compter les parents parmi eux, et mais également les élèves, même dans les zones à conflit, nous avons compris que par-ci, par-là, on a dû laisser les choses se dérouler normalement. Parce que l'examen d'État engage la République et l'avenir de nos enfants. Il ne fallait pas que des problèmes d'insécurité puissent empêcher le déroulement de ces épreuves.
Toujours dans le cadre de l'examen d'État, dans le Haut-Katanga, la plupart des finalistes du secondaire affichent la sérénité et espèrent embrasser les études supérieures et universitaires dès la prochaine rentrée académique. D'autres profitent de cette fin des épreuves pour s'offrir toutes sortes de plaisirs. Jean Gando.
C'est peu avant 12 heures heure locale que les élèves finalistes commencent à quitter les salles d'examen. La plupart manifestent leur optimisme quant à leur chance de réussir.
L'examen est bien passé, je vais réussir.
Les questions que j'ai trouvées là-bas, j'ai répondu quelques questions et puis je me rassure que tout a été bien passé.
J'ai bien travaillé et j'ai trouvé des questions faciles chez moi.
L'examen est très facile, je vais réussir avec 83%, je suis sûr de moi-même que j'ai bien travaillé.
Je peux avoir 70%.
L'examen s'est passé bien, les choses que j'ai trouvées là-bas, c'est les choses que j'ai étudiées à l'école. La
parfois les tests que je trouvais là-bas. C'est une test que je n'avais posé encore à l'école.
Je fais la mécanique auto, je suis sûr que je vais rester avec 70%.
Pendant ce temps, les autres élèves, naturellement contents de passer les dernières épreuves du cycle secondaire de leurs études, les commentent chacun à sa manière. Devant une école choisie comme centre d'examen, certains élèves immortalisent la fin des épreuves par des photos souvenirs. Le tout s'est fait sous le regard de certains parents venus chercher leurs enfants. L'un d'eux nous raconte qu'il préfère rentrer à la maison avec son fils que le laisser sous l'influence de ses amis qui peuvent l'entraîner dans des activités peu recommandables en ce jour qui marque la fin des épreuves. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Par ailleurs, à Bukavu, la fin de ces épreuves hier a poussé beaucoup d'élèves finalistes au dérapage. Certains se sont mis à déchirer les uniformes de leurs collègues, y compris celles des jeunes filles et en plein air. Un comportement qui a choqué pas mal d'observateurs. Dans l'actualité aussi, deuxième jour de visite de la première ministre hier à Goma, visite consacrée à une série de visites sur terrain. Judith Suminwa s'est rendue successivement dans le camp des déplacés de la 8e CEPAC Mugunga, puis à l'hôpital militaire de Katindo avant de boucler sa visite au cimetière Génocoste à une quinzaine de kilomètres de Goma dans le Nyiragongo. Reportage de Denise Lukeso rendu par Rachel Kiesé.
Sur les sites des déplacés de la 8e CEPAC de Mugunga, la chef du gouvernement a dit ceci aux déplacés.
Je viens vous offrir un message d'espoir pour vous dire que mon gouvernement, nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles pour qu'on trouve une solution à votre problème. Nous savons que dans les différents sites, il n'y a plus de place.
Pour leur part, les déplacés réitèrent leur seule demande et leur seul vœu, celui de retourner chez eux.
Nous vous prions de renforcer les FRDC et les Oisalem au front pour bouter dehors ces terroristes de M23 à RDF, nous faire retourner dans nos villages de provenance. En attendant notre retour, nous restons à la charge du gouvernement. Nous voulons que la guerre prenne fin pour rentrer chez nous.
Au camp des déplacés, tout comme à l'hôpital militaire, Judith Suminwa remet une assistance en vivres et non-vivres. Aux militaires blessés de guerre, elle donne un message d'encouragement et de réconfort. Elle boucle sa visite au cimetière Génocoste. Ici reposent les victimes des bombardements du M23 du 3 mai dernier.
Pendant ce temps, sur la ligne de front, les affrontements ont été signalés hier dans le groupement Oufamandou 1er, secteur Osso, territoire de Masisi. Ces affrontements ont opposé le M23 au Azalendo. Des sources locales indiquent que depuis 5 heures locales, les rebelles du M23 ont attaqué la localité de Remeka, qu'ils ont occupée par la suite. Au même moment, d'autres affrontements ont été signalés dans la région de Kimokasake, au sud de Masisi, après des bombardements enregistrés depuis 2 jours et qui ont touché la base du contingent sud-africain de la force de la SADC. Et comme conséquence directe de ces affrontements à répétition entre le M23 et les Oisalendo dans cette région, la population de Oufamandou 1er dans le secteur, dans le territoire de Masisi, fait face à d'énormes difficultés d'ordre humanitaire et sanitaire. Elle n'a plus accès à l'aide humanitaire ni aux soins médicaux, indique un acteur de la région. Donatien Kibouya, président de la jeunesse Tembo, affirme que des décès se comptent déjà parmi cette population, décès dus aux différentes maladies telles que le paludisme, car les structures sanitaires ne sont pas approvisionnés. Les habitants se dispersent à chaque affrontement et les humanitaires n'ont plus accès dans cette zone enclavée par manque d'infrastructures. Donatien Kibouya lance ici un cri d'alarme aux autorités. Il est joint par Sifamagourou.
Nous venons alerter le gouvernement provincial comme national. Et heureusement que la première ministre séjourne en province du Nord Kivu. Que la population de Masisi, particulièrement celle du gouvernement premier, qui souffre à pareil moment, depuis 5 heures du matin, il y a eu des crépitements de balles dans les hauts plateaux du gouvernement premier. Cette journée n'a pas pu terminer et les enfants ont laissé les examens pour sauver leur vie. Alors que, il y a longtemps que nous criaillons, la population est en train de mourir de maladies de paludisme. Cette population s'est réfugiée en territoire de Walikale, dans le groupement Walo-Luanda, d'autres à Biriko, d'autres vers le groupement de Ziralo, dans le territoire de Calais. Nous demandons au gouvernement et au ministre de la Santé de voir comment aider cette population qui est en train de mourir de paludisme, de diarrhée à tout moment et à tous les centres de santé et structures sanitaires où on enregistre des cas de mort.
Pendant ce temps, au sud Kivu, la base de la MONUSCO à Rutemba, dans la ville d'Uvira, a officiellement été cédée hier au FARDC. La cérémonie s'est déroulée sur place à Rutemba, au nord d'Uvira, en présence des membres du Conseil urbain de sécurité et du personnel de la MONUSCO. Toutes les infrastructures cédées sont évaluées à près de 2 millions de dollars américains. Fiston Ngoma.
Une visite conduite par le chef du sous-bureau à travers les installations de la base de la MONUSCO a permis au commandant du secteur opérationnel des FRDC Sokola Dessus du Sud Kivu, le général de brigade Evariste Lumbu, de mesurer la taille de l'héritage des FRDC laissé par la mission onusienne. De matériel roulant, des unités de traitement d'eau potable, un héliport capable d'accueillir 3 hélicoptères, un garage et plusieurs dizaines de maisons préfabriquées et équipées devant servir des bureaux administratifs.
Au nom des FRDC, nous remercions la MONUSCO pour cette acquisition. Nous promettons à pérenniser cet acquis au bénéfice des FRDC.
La MONUSCO ayant été présente pendant environ 20 ans à Uvira, il y a bien des souvenirs que le maire de la ville, Kiza Mwato, n'a pas oubliés.
Merci pour tous les services qu'ils ont rendus à la République, à la jeunesse ainsi qu'aux femmes du Congo. À Uvira, par exemple, je reconnais qu'un jour, la milice, groupe armé à Kutumba, voulait récupérer la ville d'Uvira avec des pirogues de pêcheurs, mais les FRDC ont fait appel à l'appui de la MONUSCO. Après cette intervention, toutes ces pirogues ont été détruite.
La MONUSCO rassure qu'une période supplémentaire est accordée à une unité pour former les FRDC sur le fonctionnement et la manipulation des différents outils. D'Ouvira Fistongo Mayaba, la Radio Kapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, la coalition Le Congo n'est pas à vendre recommande au gouvernement congolais de doter la Cour des comptes des moyens nécessaires pour mener à bien son action contre l'évasion fiscale en RDC. Au cours d'une conférence de presse hier à Kinshasa, elle a présenté les résultats de l'analyse faite du rapport de la Cour des comptes sur l'audit des institutions judiciaires concernant les recettes publiques exercice 2021-2022 à Kinshasa. En effet, plus de 8 millions de dollars constituent le manque à gagner pour l'État durant ces deux années et les auteurs de la mafia dans 43 entités auditées ont été identifiés par la Cour. La coalition invite ainsi le ministre de la Justice de s'en saisir afin de sévir contre les présumés mafieux. Jeff Ngoy.
La coalition Le Congo n'est pas à vendre constate la privatisation de l'argent public par des individus impunis. Ce sont des abus qu'elle dénonce. Elle décide de vulgariser le rapport de la Cour afin d'attirer l'attention des Congolais et de ses partenaires extérieurs sur le coulage des recettes publiques et l'impunité caractérisée de ses auteurs. Valérie Mandiang de la coalition.
Ce sont des abus en tant qu'agent public, c'est-à-dire que les fonctionnaires encourent en principe une sanction disciplinaire civile. C'est-à-dire qu'on peut les relever ou bien on peut les traduire en justice pour que ces derniers puissent retourner le fonds volé et encourent une sanction ou une prison, ça dépendra du magistrat ou du juge. Deuxièmement, nous constatons qu'il y a violation manifeste du circuit de la dépense publique établie par l'article 13 du règlement général sur la comptabilité publique. C'est-à-dire que la comptabilité n'existe pas et au niveau des parquets, au niveau des tribunaux.
Sur le plan des recommandations, le CNPAV estime que des mesures correctives doivent suivre pour mettre fin à l'évasion fiscale et à la minorisation des recettes publiques au sein des cours, tribunaux et parquets. Il faut que la Cour des comptes étende ses investigations au niveau des provinces.
Des acteurs étatiques, non étatiques, ainsi que des partenaires au développement participent depuis hier aux travaux d'échange sur la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement et mandataires publics à l'initiative de l'Agence de prévention et lutte contre la corruption. Ce forum vise à prévenir l'enrichissement illicite dans la gestion de la chose publique. C'est un reportage de Blaise Ndongala.
Ces assises de 2 jours se proposent de contribuer à la réflexion de l'approche méthodologique à prendre en compte en RDC pour réussir l'encadrement et l'accompagnement du processus de déclaration du patrimoine familial avant la prise des fonctions des mandats publics. Les coordonnateurs de l'Agence de prévention et lutte contre la corruption affirment vouloir à travers cette rencontre promouvoir la transparence et garantir l'intégrité des membres du gouvernement et des autres agents publics de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Michel Victor Lesseyo.
La déclaration de patrimoine est une obligation à la fois constitutionnelle et légale. Nous nous sommes rendus compte que cette obligation n'est pas respectée. C'est pourquoi on a voulu organiser un temps de réflexion pour remédier à cette situation.
Pour sa part, le procureur général près la Cour constitutionnelle a précisé que toute personne a le droit de saisir les instances judiciaires pour dénoncer un cas d'enrichissement illicite. Il a par ailleurs précisé que le président de la République, le premier ministre ainsi que ses collaborateurs doivent déposer leur déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions légales. Et cette Cour devra à son tour prendre acte de ces déclarations avant de les transmettre à l'administration fiscale en réservant copie aux deux chambres du Parlement.
Et puis, dans deux jours, soit le 30 juin 2024, la RDC va célébrer le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, votre radio a concocté un bon menu pour vous, ses fidèles auditeurs. Il est constitué des témoignages, reportages et autres souvenirs dont la diffusion débute ce matin sur nos antennes et sur toutes nos plateformes digitales. Sans plus tarder, rendons-nous dans les rues de Mbandaka pour suivre ce que les habitants du chef-lieu de l'Équateur pensent de l'indépendance de la RDC 64 ans après, propos recueilli par Paul-Richard Malengela.
Je pense que cette indépendance-là est sur les plans de la lettre. Mais en réalité, la RDC n'est pas un pays indépendant. Parce que la RDC vit sous les injonctions des Occidentaux et des Américains. S'il faut qu'on nous appelle un pays indépendant, il faut que la RDC soit d'abord autonome sur le plan de ses ressources, sur le plan politique et consorts.
Oui, notre pays est indépendant, mais malheureusement, ces derniers temps, on oblige les gens. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne porte pas les pantalons et les culottes. Je ne sais pas, comme si on n'était pas indépendant.
Nous étions colonisés par les Belges. Nos papas qui vivaient à cette époque-là, ils vivaient à l'aise. Ils mangeaient comme il se doit. L'éducation des enfants était à un niveau très élevé et aujourd'hui nous sommes indépendants, tout vraiment ne tourne pas bien.
La RDC dépend toujours de l'Occident. Quant à moi, on allait d'abord revoir notre indépendance parce que si vous parlez même au niveau de la politique, la constitution que nous utilisons aujourd'hui, c'était élaboré toujours à l'Occident et venu mettre ça en pratique ici chez nous.
Le Congo, depuis qu'il a connu l'indépendance, il exploite sa maturité souveraine pour dire qu'il ne veut pas être sous-estimé malgré des agressions qu'il a connues, c'est ça.
Actualité internationale.
Nous sommes au Kenya. La police kényane a tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants rassemblés jeudi dans la capitale Nairobi. Au moins 7 personnes ont été arrêtées. Ces manifestations font suite à l'annonce du président William Ruto de retirer le projet de budget 2024-2025, incluant des hausses d'impôts.
L'invité.
Des acteurs étatiques, non étatiques ainsi que des partenaires au développement participent depuis hier aux travaux d'échange sur la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement et mandataires publics. Invité de Radio Kapi, le coordonnateur intérimaire de l'Agence de prévention et lutte contre la corruption affirme organiser ce forum pour prévenir l'enrichissement illicite dans la gestion de la chose publique. Michel Victor Lessaye est avec Blaise Ndongala-Mayanda.
Bonjour monsieur le coordonnateur.
Bonjour monsieur le journaliste.
L'agence de prévention et de lutte contre la corruption organise pendant des jours des travaux de réflexion et d'échanges sur la déclaration du patrimoine familial des membres du gouvernement et des mandataires publics. Quelles sont les raisons qui vous poussent à organiser ces forums?
Comme vous savez, la déclaration de patrimoine est une obligation à la fois constitutionnelle et légale. Alors nous nous sommes rendus compte que cette obligation n'est pas respectée. C'est pourquoi on a voulu organiser un temps de réflexion et d'échange pour justement arriver à connaître la raison de ce déficit et de voir des ficelles à tirer pour remédier à cette situation.
Certains analystes estiment que ces assises sont organisées en retard par rapport à la prise des fonctions des membres du gouvernement. Qu'en dites-vous?
Non, mais il n'y a jamais de retard dans ce genre de choses. L'essentiel, c'est d'y arriver. Nous sommes en train de chercher une solution. Mieux vaut tard que jamais. Donc, nous avons... le gouvernement vient d'être installé, je pense, il y a moins d'un mois. Donc, à mon estime, ce n'est pas encore trop tard. Il y a moyen de corriger le tir. Voilà.
Alors, quelles sont les démarches à mener ou compte mener l'agence des préventions et lutte contre la corruption au cas où un mandataire public ou un membre du gouvernement refuserait de déclarer son patrimoine?
Mais le procureur général, après la Cour constitutionnelle, l'a bien dit. Il y a des sanctions qui sont liées au fait de ne pas déposer sa déclaration de patrimoine ou de déposer une fausse déclaration de patrimoine. Donc ces sanctions-là seront appliquées.
Bénéficiez-vous de l'appui de certains partenaires pour mener cette politique, monsieur le coordonnateur?
Oui, les assises d'aujourd'hui, évidemment, sont organisées avec des partenaires étrangers, évidemment.
À quel message lancerez-vous en marge de cette activité à la population, aux mandataires publics et aux membres du gouvernement?
Voilà. La déclaration du patrimoine apporte une double garantie. Pour ce qui est de la population, qui est très regardante et très méticuleuse en ce qui concerne les biens des autorités, c'est une indication. La déclaration de patrimoine est une indication pour la population, pour savoir à qui appartiennent les biens. La deuxième garantie, c'est par rapport aux concernés eux-mêmes. Cela va leur éviter d'être accusés à tort de posséder tel ou tel autre bien en déposant évidemment une déclaration de patrimoine en temps utile.
Monsieur le coordonnateur, Radio Capi vous dit merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Notre invité, Michel-Victor Lissaï, est coordonnateur intérimaire de l'Agence de prévention et lutte contre la corruption. Il répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.